Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, une information RTL. Un chirurgien de Gap, spécialiste du dos, accusé d'avoir joué les apprentis sorciers.
Il aurait utilisé près d'une centaine de patients comme cobayes. Récit complet et témoignage dans un instant. Vers un couvre-feu élargi à Paris, Lyon et Marseille avec un confinement le week-end. C'est encore une information RTL. L'exécutif passe la seconde face au Covid avec deux conseils de défense en 24 heures. À suivre également notre minute américaine. On vote dans une semaine aux États-Unis, mais pas seulement pour élire le président. Et puis la Ligue des Champions, l'OM retrouve ce soir l'un des favoris de la compétition, Manchester City.
RTL Matin.
C'est probablement le cauchemar de toute personne qui doit subir une opération à Gap, et c'est une information RTL. Un chirurgien spécialiste du dos est accusé d'avoir utilisé des dizaines de patients comme cobayes. Il a testé sur eux une nouvelle technique d'intervention, mais sans les prévenir. Certains en ont gardé de lourdes séquelles. C'est l'un de ses collègues qui a donné l'alerte, Serge Puyot.
Alors qu'il était chef de service à l'hôpital de Gap, le docteur Amami a découvert que l'un de ses collègues chirurgiens avait injecté du ciment, une sorte de résine, dans les disques de la colonne vertébrale d'une centaine de patients, une technique qui n'est pas validée en France.
Des patients qui ont servi de cobayes, puisqu'ils n'ont pas été informés des risques, ils n'ont pas donné un consentement éclairé écrit. C'est d'autant plus scandaleux qu'il existe des risques avérés vis-à-vis de ces patients, mettant en jeu le pronostic fonctionnel et le pronostic vital. Vital parce que ce sont des complications qui touchaient des artères à risque hémorragique.
Bruno Chevalier, 53 ans, un des patients opérés, a porté plainte contre le chirurgien.
Je souffre. Beaucoup de douleurs, j'ai du mal à marcher, je suis reconnu handicapé à 80%. J'étais un cobaye. C'est injuste quoi, en fin de compte, il y a une colère.
Le chirurgien visé rejette ces accusations, parle de techniques connues, déjà utilisées à l'étranger, et c'est le lanceur d'alerte, le docteur Amami, qui se retrouve aujourd'hui suspendu.
C'est le monde à l'envers. C'est moi qui ai dénoncé cette affaire pour le bien des patients et c'est moi qui suis suspendu de façon scandaleuse parce que j'ai refusé d'étouffer cette affaire alors que le chirurgien incriminé est en activité.
Récit RTL signé Serge Puyot. L'enquête diligentée par l'Agence régionale de santé a confirmé de graves manquements. Le parquet de Gap s'est saisi du dossier. Les avocats de Jonathan Daval réclament le report de son procès qui doit normalement se tenir le mois prochain. Ils estiment que la cour d'assises de Vesoul est trop petite vu les contraintes sanitaires. Jonathan Daval doit être jugé pour le meurtre de son épouse Alexia il y a 3 ans.
RTL 8h03, la situation sanitaire devient donc incontrôlable selon les médecins. On va vers un nouveau tour de vis.
Emmanuel Macron a bousculé son agenda, oublié le déplacement en Saône-et-Loire. Ce matin, c'est conseil de défense et on remet ça demain. Entre-temps, Jean Castex aura reçu les partis politiques et les partenaires sociaux à Matignon. Tout cela a des allures de mobilisation générale. C'est que tous les voyants sont au rouge. Désormais, plus de 2700 malades du Covid sont hospitalisés en réanimation et ça progresse de façon exponentielle. Il faut donc passer à la vitesse supérieure, William Galibert.
Oui, l'urgence sanitaire est en train de tout emporter sur son passage et en multipliant les réunions, l'exécutif veut montrer qu'il consulte à tout va avant de prendre des décisions lourdes qui vont toucher le quotidien de tous les Français. Pour Emmanuel Macron, c'est aussi une manière de préparer les esprits. Tous les scénarios sont sur la table, répètent les conseillers ministériels. Oui, mais tous les scénarios sont porteurs de mauvaises nouvelles. Heure du couvre-feu avancée, reconfinement le week-end ou reconfinement tout court pour les zones les plus touchées. On n'a plus le temps d'attendre. Dans 10 jours, la situation sera catastrophique dans les hôpitaux, résume un cadre de la majorité. Le chef de l'État doit trancher d'ici demain soir. Les annonces aux Français suivront jeudi, dernier délai.
Et selon les informations d'RTL, en Ile-de-France, à Lyon et à Marseille, on se dirige vers un couvre-feu élargi dès 19h et un confinement le week-end. Seuls les commerces essentiels seraient ouverts. Y aura-t-il aussi des changements à l'école? Pour l'instant, rien n'est décidé, dit le ministère de l'Éducation. Mais on peut s'attendre à quelques évolutions, Marie Garrier.
Plusieurs mesures sont sur la table, comme faire porter le masque aux élèves dès l'école primaire ou encore réduire les jauges d'accueil en classe, prioritairement au lycée, en alternant les groupes d'élèves présents. Philippe Vincent du SNP2N représente les chefs d'établissement en collège et lycée.
Le ministère des scénarii, en gros hybride, avec une partie en présentiel, une partie à distance. On a acquis de l'expérience, on a acquis des savoir-faire de mai-juin dernier. Donc c'est faisable, mais nous ce qu'on souhaiterait, ce serait qu'on nous laisse un minimum de temps pour nous y préparer.
Et donc ne pas être prévenu la veille de la rentrée. En primaire, le SNUIPP plaide aussi pour la réduction du nombre d'élèves par classe, avec l'aide des collectivités collectivités locales. La porte-parole du syndicat, Guylaine David, rappelle.
C'est un scénario que le ministère avait prévu. Lorsque l'épidémie serait très importante dans certaines régions, on pourrait mettre en place un système d'allègement des groupes d'élèves pour qu'il puisse y avoir distanciation physique à l'école. Il faut qu'on recherche dans les communes des lieux et des personnels qui pourraient accueillir la moitié de la classe lorsque la classe est allégée en demi-groupe.
Et elle conclut, la situation sanitaire se dégrade, les médecins tirent la sonnette d'alarme, on ne peut pas reprendre l'école comme s'il ne s'était rien passé pendant les 15 jours de vacances.
Marie Guerrier, spécialiste éducation d'RTL. Et cette nuit, les députés ont voté le plan de relance censé atténuer les effets de la crise. Ce plan doit débloquer 22 milliards de crédits en 2021, mais il est déjà quasi obsolète vu l'évolution de la situation sanitaire.
8h06 en Italie, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté hier contre la fermeture à 18h des restaurants et des bars.
Oui, ça dure depuis quelques jours maintenant et par endroits, la contestation vire à l'affrontement. Ici à Lecce, mais aussi à Milan, à Naples ou encore à Turin et partout, le même slogan, Liberta.
Dans un instant, notre minute américaine à une semaine exactement de l'élection présidentielle. Il se passe des choses à chaque instant aux États-Unis en ce moment. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal d'Isabelle Choquet. C'est une première victoire pour Donald Trump. La juge Amy Coney Barrett a été confirmée hier à la Cour suprême.
Oui, elle a prêté serment immédiatement. Courte cérémonie à la Maison-Blanche. Elle a promis de laisser ses convictions personnelles de côté. Rappelons que c'est une juge ultra-conservatrice, anti-avortement, anti-mariage gay. C'était la candidate de Donald Trump. C'est un jour historique pour l'Amérique. Voilà ce qu'a déclaré le président américain, qui a donc réussi son pari, imposer sa marque à la Cour suprême avant l'élection présidentielle.
RTL, la minute américaine.
Et on retrouve notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet, bonjour.
Bonjour.
Élection présidentielle, c'est une façon de parler, hein, Philippe, car en fait, mardi prochain, les Américains ne voteront pas seulement pour élire leur président.
Non, ils votent aussi pour un certain nombre d'élus locaux, shérifs, juges, des référendums ici ou là. Il y en a un très important en Californie sur le statut des travailleurs des plateformes numériques type Uber. Sont-ils des salariés ou des indépendants? Renouvellement aussi de la Chambre des représentants. Les démocrates devraient la garder. Et surtout, renouvellement d'un tiers du Sénat. C'est presque aussi important que la présidentielle. Les républicains risquent de perdre la majorité. Des sièges solidement conservateurs semblent menacés. Si par exemple Biden gagne et que le Sénat reste républicain, il devra négocier avec l'opposition sur chaque nomination de ministre ou de juge, chaque loi, chaque ligne budgétaire. Il ne pourra pas faire grand-chose. En revanche, si les sondages se confirment et que les démocrates gagnent la Maison-Blanche, le Sénat et gardent la Chambre, ils auraient le champ libre pour mener des réformes plus à gauche. C'est comme ça qu'ils avaient fait adopter la loi historique sur l'assurance santé il y a 10 ans. Sur les 40 dernières années, ça ne leur est arrivé que pendant 4 ans, 2 ans sous Clinton, 2 ans sous Obama.
La Minute Américaine signée Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux États-Unis.
On passe au foot, la Ligue des Champions est de retour.
Oui, ce soir, l'OM affronte l'un des favoris de la compétition, Manchester City et son entraîneur star Pep Guardiola. Coup d'envoi à 21h, RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h45 avec Christian Olivier et le service des sports. Demain, c'est le PSG qui se déplace à Istanbul sur la pelouse du Başakşehir, un club très politique, Nicolas Georgerot.
Başakşehir, surnommé parfois le FC Erdogan. L'ancien maire d'Istanbul a favorisé la montée en puissance de ce club qui a 30 ans à peine, situé dans la banlieue ouest de la ville, dans le quartier conservateur du même nom. Depuis 2014, Başakşehir appartient à des membres de l'AKP, le parti politique d'Erdogan. Il est soutenu par des multinationales proches du pouvoir. Le résultat ? Un recrutement d'anciennes gloires comme Adebayor et Robinho, une ascension exponentielle pour décrocher le titre de champion de Turquie cette année aux grandes dames des trois institutions stambouliotes, Fenerbahçe, Galatasaray et Beşiktaş.
Nicolas Georgerot, un déplacement effectivement qui intervient dans un contexte de forte tension entre la France et la Turquie. Hier, c'est le président turc lui-même, Recep Erdogan, qui a appelé au boycott des produits français en réponse au discours anti-islamisme d'Emmanuel Macron.
On termine avec l'histoire du jour.
Quand les astronautes jouent au bricolo en plein cosmos, figurez-vous qu'il y avait une fuite d'air dans un module de la Station Spatiale Internationale. Alors, on a demandé aux astronautes de trouver la source. Et vous savez comment ils ont fait?
Non.
Ils ont utilisé du thé en sachet. Ils ont déchiré le sachet, c'est dur à dire, et les feuilles de thé en apesanteur se sont dirigées d'elle-même vers l'endroit de la fuite par aspiration. La fissure a été rafistolée avec un morceau de ruban adhésif. Heureusement qu'il ne buvait pas de café. Hein.
Vous avez trouvé une version très alerte de T42. À 8h02, c'était le journal 10.